Normalement, les vignes sont déjà émondées à cette époque. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais ceux qui travaillent dans le vin, surtout en Bourgogne, doivent savoir ça. Alors, nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps à nous promener dans des vignobles comme ça pour regarder la beauté de la nature et la puissance de la vie qui surgit enfin de la nature. Mais on peut comprendre cette image que Jésus lui-même choisit pour nous inviter à méditer sur une réalité toute simple mais extrêmement forte. Maintenant, nous sommes dans ce temps de Pâques en train justement de contempler le visage de Jésus, sa présence parmi nous, mais pas seulement devant nous. Il nous invite à le voir présent, à le reconnaître en nous. Alors ça, pour notre esprit, c'est difficile de parler d'une manière géographique, enfin, au niveau de l'espace. Comment est-ce possible que Dieu habite en nous? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors que nous, nous habitions en lui, de demeurer l'un dans l'autre, comme ça. Ça ne va pas, ça, pour notre tête. Alors, bien sûr qu'il faut se situer sur le plan de réalité spirituelle. Depuis que Jésus est ressuscité, son propre corps a été spiritualisé. Ça veut dire glorifié et transformé totalement. C'est le même corps, en même temps, il est complètement transformé. Du coup, il dépasse les limites du temps et de l'espace. Et c'est pour cela que nous pouvons le recevoir, d'ailleurs, dans chaque Eucharistie à la communion. Nous avons déjà médité là-dessus les jours passés quand le Seigneur nous présentait justement ce mystère de sa présence de l'Eucharistie. Et nous pouvons reprendre aussi l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6 par exemple, pour comprendre ce désir profond du Seigneur de se donner à nous et habiter en nous. Alors aujourd'hui, il prend cette nouvelle image, cette autre image de la vigne et des sarments pour nous faire penser justement à cette sève qui va de la vigne et qui va partir pour irriguer chaque branche, chaque petit rameau, afin que la vigne porte du fruit. Cette image où les sarments qui ne servent à rien, qui ne portent pas de fruit, doivent être coupés, ou encore ce travail où les sarments qui portent du fruit doivent être eux aussi taillés, émondés, comme on dit, pour qu'ils portent davantage de fruits, ça peut nous faire un peu peur, ou alors on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. Je me suis... Enfin, c'est pas un amusement, mais vous pouvez faire aussi ce petit exercice d'entrer sur le... Enfin, de chercher dans un dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire émonder. Débarrasser de rameaux morts ou inutiles, de branches qui déséquilibrent la croissance, ou débarrasser encore de plantes parasites. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie qui se dépense pour rien. Alors, il suffit de regarder notre vie un peu, nos différentes occupations, le temps que nous donnons à telle ou telle activité. Est-ce que tout est absolument nécessaire et tout est de la même importance? Peut-être pas. Et il y a des choses, des activités, ou peut-être même des relations, qui nous demandent une énorme énergie, sans beaucoup de résultats derrière, ou tout au moins sans le résultat que nous aimerions avoir. Le Seigneur prend cet exemple pour nous dire, nous en tant que chrétiens, eh bien de ne jamais oublier cette énergie intérieure, cette puissance de l'âme que nous avons et que nous utilisons, voilà. Et à quoi ça sert en fait, telle ou telle activité, telle ou telle façon de nous comporter ou de vivre. Peut-être qu'il y a des choses en nous qui ne méritent pas vraiment une importance extraordinaire et Ça ne vaut pas la peine de nous dépenser, de nous fatiguer inutilement. Eh bien, il faut s'en débarrasser. Et le Seigneur est simple. C'est lui qui va nous dire. Quand il dit, le Père vient et élaguer, enfin, couper, enlever les branches. En fait, c'est pour dire que c'est la parole de Dieu qui nous révèle, qui nous met, qui met peut-être le doigt sur telle ou telle activité, telle chose, qui n'ont pas beaucoup d'importance pour notre vie, en fait. Et qui nous détourne d'une certaine manière de l'essentiel. Eh bien, implorons cette parole de vérité. C'est pour ça que Jésus dit à un moment donné, vous êtes, vous, déjà purifiés en tant que mes disciples grâce à la parole que je vous ai dite. Eh bien, dans la mesure où nous vivons dans cette lumière de Pâques, eh bien, tout ce qui est obscur, ou justement inutile, eh bien, peut être dépisté et enlevé. Demandons cela au Seigneur, que ce soit lui qui nous montre, en fait, ce qui nous encombre. Et la puissance de Jésus ressuscité, c'est bien cela. C'est qu'il veut garder en nous cette puissance intérieure de la foi et de l'amour qui sont l'essentiel de notre vie. Alors, justement, deuxième chose, le Seigneur nous demande de garder ce lien avec lui pour demeurer en lui sans cesse, pour nous dire « voilà l'essentiel ». Voilà à quoi vous devez vous dépenser. Voilà à quoi je vous attends. Voilà le cadeau que je veux vous faire sans cesse, en fait. Et cela, eh bien, a lieu chaque fois que nous nous approchons des sacrements, bien sûr. C'est là, dans la communion que je disais tout à l'heure, que nous recevons en nous cette énergie intérieure, dans le corps et le sang du Seigneur. Sa propre vie coule dans nos veines, à nous, dans notre cœur. C'est vraiment important ce que nous faisons chaque dimanche, venir à la messe, prier. C'est le moment le plus important de la semaine, on dit. Ça dure combien de temps? Ben, ça dépend de l'homélie. Hein. C'est vrai. Ben, en gros, une heure, quoi. Hein. Plus le déplacement. Qu'est-ce que c'est que cela pour une semaine entière? Ben, une heure sur combien d'heures? Hein, vite un calcul. 168. C'est pas ça? Eh bien, c'est pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. C'est l'essentiel. Mais justement, cette sève de la vie de Jésus vivant ici, eh bien, elle se déploie tout au long de la semaine. Nous pouvons et nous devons, en fait, demander au Seigneur comment faire pour entretenir cela en nous. Certains reviennent à la messe dans la semaine, autant qu'ils peuvent, certains même chaque jour, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et alors, quels moyens allons-nous trouver pour retrouver Jésus vivant en nous et l'adorer, même présent dans notre cœur, les jours qui viennent, enfin dans la semaine, quoi. Mardi prochain, vendredi, comment est-ce que nous allons trouver ce Jésus vivant en nous? Bien, demandons-lui de nous éclairer sur les petites décisions peut-être à prendre maintenant, ou les jours qui viennent, hein, paisiblement, pour garder ce lien permanent avec lui, en fait. Et enfin, troisième petit point, il y a quelque chose qui est très mystérieux dans la première lecture, où il nous est dit que Paul, qui venait de se convertir, en fait, qui devient chrétien, qui rencontre Jésus, commence à prêcher, et il n'est pas très bien accueilli par certains de ses frères, hein, à lui, de juifs, hein, qui n'étaient pas croyants, encore chrétiens, et qui essayaient de le persécuter, de le mettre à mort. Donc, c'est une époque de persécution. Depuis la mort du premier martyr, hein, Étienne, eh bien, les chrétiens sont obligés de fuir. Et cependant, saint Luc nous dit, l'Église était en paix. Et elle se construisait, et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, et elle se multipliait. une époque de persécution, et cependant, les chrétiens étaient en paix. C'est comme pour nous dire que la paix, eh bien, ne veut pas dire l'absence de la persécution. C'est aussi une façon de nous dire que la présence justement vivante de Jésus au cœur des chrétiens, par son Esprit Saint, eh bien, c'est lui la source véritable de la réconciliation et de l'harmonie, et donc de l'entente et de la paix. Ce n'est pas l'absence de la guerre ou des persécutions seulement. Mais cela peut nous apprendre quelque chose de très fort aussi. C'est que justement, dans des moments de contrariété, peut-être, au moment où nous voulons peut-être évangéliser aussi, et nous sommes rejetés, eh bien, c'est là que le Seigneur se rend présent. C'est là qu'il nous envoie encore plus son Esprit Saint, et il fait que nous portions du fruit. Il envoie cet esprit dans le cœur de ceux et celles que nous allons rencontrer pour partager notre foi et notre joie et justement notre paix, notre sérénité, qui seule est capable de toucher le cœur de quelqu'un d'ailleurs. Eh bien, prions aussi les uns pour les autres, bien sûr, mais de manière aussi particulière pour tous ceux qui aujourd'hui sont d'une façon très cruelle, persécutés pour leur foi, loin d'ici peut-être, ou tout proche, eh bien, que ce corps entier qui est l'Église, eh bien, puisse donner du fruit sans cesse. Si on regarde un peu l'histoire, on voit bien que à chaque époque, le Seigneur lui-même a voulu multiplier le nombre de chrétiens dans le monde. Et ce n'est pas fini. Ça va continuer même si certains veulent nous faire croire le contraire. Mais non, ce n'est pas la fin. C'est justement, au contraire, le moment où lui, le Seigneur, veut venir habiter dans le cœur de beaucoup. Eh bien, nous qui sommes ici dans cette chapelle, devant le cœur de Jésus, eh bien, consacrons notre propre cœur et rendons-nous disponibles pour cette mission. Et les jours qui viennent, nous allons invoquer de plus en plus justement cet Esprit Saint qui nous prépare et qui nous envoie en mission, qui nous montre où aller, à qui parler, quelle parole dire, quelle action poser, quel acte concret pour transmettre cet amour. C'est cela porter du fruit aussi. Alors invoquons déjà dès maintenant cet esprit d'un amour, de vérité, cet esprit qui nous purifie et qui renouvelle, qui enflamme notre cœur d'un amour, de cet amour qui jaillit du cœur même de Jésus ressuscité.